Bonjour et bienvenue dans cette deuxième émission de radio Vox Latina. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre deuxième volet qui traitera de meurtres, de sang et de violence. On commence directement avec Noémie et Anthony qui vont nous parler d'une affaire de meurtre sanglant.
Merci Clara Rose. Nous allons vous parler de l'affaire cicéronienne Pro Rocio Amerino Sextus Rocius, non très compliqué. Cette affaire met en lumière le cas d'un riche propriétaire terrien citoyen d'Ameria, qui est retrouvé assassiné de nuit dans le quartier de Subur, alors que ce dernier sortait d'un banquet et rentrait chez lui. L'un des bas-fonds les plus sordides de Rome et l'un des plus célèbres de toute l'Antiquité. Le suspect de ce crime est Sextus Rocius, fils de la victime dont il porte le même nom. Un jeune homme, dénué d'instruction, vivant dans les champs, étranger aux affaires, inconnu à Rome, se retrouve accusé d'avoir commis un parricide. Si Rocius fils est reconnu coupable de parricide, crime particulièrement grave dans le droit pénal romain, il risque une mort absolument atroce. Les personnes condamnées pour ce crime étaient fouettées, puis on les enfermait dans un sac avec un chien affamé, un singe, un coq et un serpent. Rien de très... voilà. Enfin, de manière tout à fait glorieuse, on mettait fin à ses souffrances en le mettant dans un sac, puis on le jetait dans le Tibre. Il semblait que Sextus Rocius, fils, était victime d'une conspiration orchestrée par son cousin Capiton, qui travaillait comme contremaître pour son oncle avec l'aide de son complice Magnus. Capiton aurait fait assassiner son oncle et patron Sextus Rocius, père, dont le patrimoine de 13 fermes est estimé à 6 millions de sesterces. Le procès se déroule en pleine séance ouverte sur le forum et amène un large public attiré par les relents de scandales qui pèsent sur cette affaire ténébreuse. Et oui, l'accusation est portée par Erucius, un accusateur choisi par Chrysogonius, lui-même grec affranchi par Sylla dont il est devenu le bras droit. Le but d'Erucius est de s'efforcer de prouver devant les juges que Sextus Rocius fils aurait tué son père pour se venger d'avoir été déshérité. La défense du jeune Sextus Rocius est assurée par un jeune homme de 27 ans, encore inconnu, dont le nom deviendra célèbre en littérature et dans l'histoire, Cicéron. Marcus Tullius Cicero.
Et donc, comment Cicéron s'y prend pour disculper son client? Tout d'abord, il commence par dire que Rocius est innocent, il n'avait aucune raison de faire ça. S'il n'avait aucune raison de le faire, il faut que ce soit quelqu'un d'autre. Et donc, Cicéron accuse Capito et Magnus. Cicéron suggère que Magnus, qui s'est trouvé chez lui la nuit du meurtre, insinuant qu'il avait commandité l'assassinat, il laisse aussi entendre que Capito, le premier à signaler le meurtre, en était en fait l'auteur et avait ensuite été averti par Magnus du succès de son entreprise. Il développe dans un récit mélodramatique l'idée que les deux hommes voulaient s'accaparer l'héritage de Rocius pour le compte de Chrysogonius, qui, rappelez-vous, est un proche du dictateur Sylla, ainsi c'est un procès politique. Grâce à la plaidoirie audacieuse et brillante de Cicéron, le jury a été convaincu de l'innocence de Sextus Rocius, fils à l'accusation de meurtre. Il a été acquitté. Bien que Sextus Rocius, fils, a été sauvé d'une mort horrible et atroce, il est important de noter que Sextus Rocius n'aurait jamais récupéré les biens de son père qui avaient été confisqués et acquis illégalement par les conspirateurs.
Merci beaucoup. Maintenant, Rose, Camille et Leïna vont nous présenter les petits meurtres dans la famille de Néron.
Merci Clara Rose. Au cours de l'Antiquité, beaucoup d'empereurs se sont succédés. Respectables, ambitieux, justes, cléments et d'autres encore.
Et un empereur assassin, vous en avez ça en stock?
Oui aussi. Au programme d'aujourd'hui, l'histoire de Néron. Néron accède au trône tout juste âgé de 17 ans.
On n'a pas tous la même vie à 17 ans.
Et cela suite à la mort de l'empereur Claude qu'il avait précédemment adopté et choisi pour successeur à la place de son propre fils.
Pas sympa le daron.
Apparemment, les parents à l'époque s'est surfait puisque Néron a très vite voulu s'en débarrasser. Néron, soucieux de garder le pouvoir, prévoit également de faire tuer le fils légitime de Claude, Britannicus. Il l'assassine au cours d'un banquet devant toute la cour grâce à l'aide de la plus célèbre empoisonneuse de l'Empire, Locuste. Elle est le traiteur favori de Néron. Et oui, c'est elle qui lui fournit le poison à base de laurier rose que l'héritier va avaler après s'être brûlé les lèvres. Cet épisode tragique a inspiré Racine pour sa tragédie Britannicus.
Revenons à Locuste, célèbre tueuse en série de la Rome antique. Elle avait précédemment aidé la mère de Néron à tuer l'empereur pour que son fils accède au trône et aide Néron à se débarrasser de son demi-frère. Mais lorsque vous êtes connue pour être empoisonneuse attitrée d'un empereur qui s'est mis à dos tout le Sénat, il ne sert à rien de réactualiser votre CV. Votre espérance de vie est considérablement réduite si votre patron venait à être tué. Alors qu'Agrippine manipule Néron pour régner, celui-ci se lasse de ses manigances et prévoit son meurtre. Oui, encore. Ainsi, à l'occasion d'une fête, Néron l'invite dans sa villa. Il se montre très attentionné et affectueux. Alors qu'Agrippine doit retourner chez elle, il lui propose d'embarquer à bord de l'un de ses bateaux. Sa beauté, évidemment. Mais elle réchappe au naufrage et parvient à traverser à la nage une partie de la baie de Naples. À peine remise de l'accident, elle voit arriver chez elle des soldats et comprend qu'ils sont envoyés par son fils. Un centurion sort son glaive pour la tuer. C'est à ce moment-là qu'elle prononce sa célèbre phrase « Frappe-moi au ventre, c'est là que j'ai porté mon fils ».
Revenons maintenant sur un aspect essentiel de ces mythes, les meurtres. Pas par goût du macabre, non, mais parce qu'ils sont le moteur même des tragédies grecques. Dans ce monde où les dieux s'en mêlent, où l'honneur passe avant tout, tuer n'est jamais un geste gratuit. C'est un acte chargé de sens, de conséquences, de justice ou d'injustice. Commençons par Oreste. Pourquoi poursuit-on ce jeune homme ? Parce qu'il a commis l'un des crimes les plus abominables aux yeux des anciens grecs. Il a tué sa propre mère, Clytemnestre. Et attention, Oreste ne fait pas cela par cruauté. Il obéit à un ordre divin, celui d'Apollon. Sa mère avait tué son père, Agamemnon, revenu de la guerre de Troie. Alors Apollon somme Oreste de venger ce meurtre. Mais voilà, dans la logique des Erinnies, les anciennes déesses de la vengeance, un matricide est un crime absolu, quoi qu'il arrive. Elles ne prennent pas en compte les raisons, elles ne veulent pas de procès. Pour elles, du sang a été versé, du sang doit être payé. Elles poursuivent Oreste sans pitié, car leur rôle dans le monde est simple. Traquer les meurtriers pour qu'aucun crime familial ne reste impuni. Maintenant, Médée. Ah, Médée, une des figures les plus redoutables et les plus bouleversantes de toute la mythologie grecque. Son premier meurtre, celui de son frère Abrystos. Un meurtre horrible. Elle le découpe en morceaux pour ralentir son propre père qui poursuit sa fuite avec Jason. Ce geste n'est pas un caprice, c'est un sacrifice, une rupture irrémédiable avec sa famille pour sauver l'homme qu'elle aime.
Plus tard, Médée tue encore, mais cette fois par ruse. Pélias avait usurpé le trône qui appartenait à Jason. Pour le venger, Médée manipule les profits de Pélias et leur fait croire qu'en découpant leur père et en le faisant bouillir, elle pourrait le rajeunir. Bien sûr, Pélias ne ressuscite pas. On voit ici une autre facette du personnage, Médée la magicienne, la manipulatrice, qui tue sans porter elle-même le coup fatal, mais par astuce, par discours. Et puis, il y a le meurtre final, celui qui glace encore le sang aujourd'hui. Médée tue ses enfants pour se venger de Jason, qui l'a trahi en choisissant d'épouser une autre femme, plus jeune, plus noble. Pourquoi tuer ses enfants ? Parce qu'ils sont la seule chose que Jason aime vraiment, parce qu'elle veut qu'ils souffrent autant qu'elle a souffert, parce qu'elle refuse de les voir devenir des instruments ou des victimes de la cour de Corinthe. C'est un acte atroce, insoutenable, mais dans la logique tragique, c'est l'ultime affirmation de son pouvoir. Elle refuse de laisser Jason décider de son destin, elle refuse de perdre, elle se venge là où ça fait le plus mal. Dans toutes ces histoires, que ce soit la matricide d'Oreste ou les crimes de Médée, le meurtre n'est jamais seulement un geste de violence. C'est un acte qui engage le destin, qui renverse l'ordre du monde. Les Grecs utilisaient ces récits pour interroger la justice, la responsabilité et surtout les conséquences de nos actes.
À noter, les faits précédemment évoqués sont des mythes et ils se sont déroulés pendant l'Antiquité. Ils ne sont en aucun cas à reproduire chez soi. Merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Vox Latina.